Salut Mermet, c'est Gab, 22 ans, à Nantes. Ce soir, après l'émission et une courte page de pub, j'ai appris aux infos que les Français n'étaient pas mécontents de leur service public, dans l'ensemble. Eh, mais moi, les médias de service public, ben, je les invite plus chez moi, dans l'ensemble. La télé, ça fait longtemps que je m'en passe, mais la radio, j'avoue que j'aurais un peu de mal, et puis, ben, ouais, j'aime bien me tenir au courant de l'état du monde quand même. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je lui ouvre la porte à la radio, eh ben, y a aussi la réclame qui débarque avec, à chaque fois. Écouter la radio, ça fait de moi quoi? Un auditeur. Et il me semble pas que cible marketing ou consommateur, ça fasse partie de la définition d'auditeur. Franchement, j'en ai marre de me faire poursuivre par la pub jusque chez moi, dans mon intimité. Alors juste à titre de comparaison, au Royaume-Uni, sur les télé et radios de service public, eh ben, il faut savoir qu'il n'y a aucune pub. Alors la redevance télé est un petit peu plus chère, mais les gens la paient, et ils savent pourquoi. Alors ça fait un petit peu chier quand même de payer pour pouvoir vivre sans pub, mais si monsieur le ministre des Finances nous fait un tarif chômeur, étudiant ou précaire, eh bien je m'engage ici et maintenant, le 16 septembre 2004 à Nantes, à payer la taxe sur l'audiovisuel. Bisous à tous et mille merci pour l'émission, ciao.
Salut Daniel, ben, je t'appelle pour pousser un coup de gueule parce que je viens d'écouter ton émission et puis moi je veux parler des pousses conso, j'appelle ça comme ça parce que quand tu vas dans des bars, tu as des barman ou des serveurs qui incitent les jeunes, parce qu'on parle des grosses boîtes d'alcool, mais dans les bars tu as les serveurs et les barman qui incitent les jeunes à boire, qui les presque qui les humilient parce qu'ils veulent pas boire un verre d'alcool en leur disant que ce sont des petites bites, des petits joueurs. Que sont pas des mecs. Moi, je tenais à dire aux jeunes qui vont dans un bar, c'est pas parce que vous rentrez dans un bar que vous êtes obligé de boire de l'alcool. De toute façon, je suis d'Avignon. Dans certains bars, je vois des mineurs qui sortent du collège et qui s'installent et qui boivent des pastagas, des gens qui sortent dans des états d'ébriété affolants. C'est l'aberration totale. Les jeunes s'en vont, les barmans et les patrons de bar n'en ont rien à faire. Ils se posent pas la question de savoir si ces jeunes vont rentrer entiers chez eux ou pas. Et puis je tiens à dire aussi aux parents, parce que c'est arrivé à une amie l'année dernière, son gamin de 15 ans qui est rentré à 6 heures en sortant du collège complètement bourré. Elle a pas osé porter plainte. Mais moi je tiens à dire aux parents, si jamais ça vous arrive à votre enfant qui est mineur, vous allez voir le patron de bar. Et avant d'aller le voir, vous allez porter plainte parce que c'est pas du tout normal. Ils foutent une jeunesse en l'air pour le fric. Voilà. Bye.
Bonjour à tous. Hier, Monsieur Hollande, sur cette antenne, a fait son plaidoyer pour le oui à la Constitution européenne, telle qu'elle est définie dans le traité présidé par Valéry Giscard d'Estaing. En fustigeant les défenseurs du non, leur placardant en passant de manière réductrice et simpliste une étiquette d'anti-européen dans le dos, Monsieur Hollande nous explique que cette construction européenne-là ne contient non seulement aucune remise en cause des acquis sociaux, mais qu'au contraire, elle comporte de multiples avancées vers la modernisation et l'amélioration des conditions de vie sur notre continent. Bref, ce serait selon lui la seule voie vers le progrès. Ceux qui s'y opposent sont de dangereux réactionnaires, et la question même d'un débat public lui paraît saugrenue. Malgré tout le respect que j'ai pour le numéro 1 du PS, j'ai tout de même du mal à souscrire à cette analyse, au regard des thèses très libérales écrites noir sur blanc dans ce document. Notamment celle concernant la libre concurrence non faussée, donc affranchie par définition de tout contrôle étatique et citoyen. En effet, cette notion, parmi d'autres détaillées dans ce projet, sont issues en partie des théories de messieurs Adam Smith et David Ricardo, qui ont vécu au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, les économistes alternatifs développent des idées plus centrées sur des valeurs humanistes, qui s'opposent à cette conception économiciste de l'Europe, décrite dans ce traité. Or, ces thèses très en vogue durant les années, enfin, les 30 glorieuses, mais aujourd'hui marginalisées, s'appuient sur des concepts établis au milieu du XXe siècle par des penseurs comme John Maynard Keynes ou Karl Polanyi, beaucoup plus proches des problèmes de notre temps que ces penseurs du XVIIIe. Si l'on utilise ici le fait intéressant que certains économistes ont tendance à comparer leur discipline à une science dure telle que la physique, que penseriez-vous d'un homme de pouvoir qui prendrait les thèses sur la gravitation de Nicolas Copernic comme base de développement, les opposant à celles d'Albert Einstein sur le même sujet, en soutenant qu'elles répondent mieux à notre environnement moderne et qu'elles font avancer les choses? Il est temps de cesser de s'arc-bouter sur des concepts archaïques qui ont conduit à des catastrophes comme celle de 1929 et qui continuent, entre autres, par l'intermédiaire de la dette du tiers-monde, à asservir les 9 dixièmes de la population au profit des 10% dominants. Il faut, avant le référendum sur le projet de traité pour une constitution européenne, un vrai débat public, avec un accès à la parole pour tous les protagonistes, afin que ce pays des droits de l'homme, qu'est la France, le reste, et ne devienne pas exclusivement le pays des droits économiques. Vous pourrez trouver des infos sur le site www.desousetdeshommes.org avec un tiret entre chaque mot. Auditeurs, continuez à penser et à réfléchir. Nous ne sommes pas des moutons. Et merci à toute l'équipe de Là-bas si j'y suis qui nous aide à le faire. Ah, au fait, avec 138 milliards de dollars, M. George Bush fils aurait pu fournir à ses 37 millions de concitoyens vivant en dessous du seuil de pauvreté environ 220 dollars par mois depuis le début de la guerre. Cette somme aurait sans doute été plus utile aux 13 millions d'enfants américains vivant en dessous de ce seuil indigne au pays des libertés économiques. Au revoir et à bientôt. C'était Laurent Derblay.
Voilà, un usage judicieux de la cagnotte. La cagnotte qui avance chaque jour, comme vous le savez. La cagnotte, c'est le coût de la guerre en Irak depuis le début. À l'instant où je vous parle, il est 10h35 aux États-Unis, à Washington très précisément. Eh bien, le montant est de 138 605 800 et quelques mille dollars. C'est le montant de la guerre depuis le début, la guerre en Irak depuis le début, tel qu'il figure sur ce panneau apposé, comme vous le savez, au centre de Manhattan. Et le jeu continue, le concours continue. On vous demande de nous dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec cet argent-là, 138 milliards 605 millions 800 000 dollars. Alors oui, je suis à Washington, toujours, pas loin de la Maison Blanche, et surprise, la Maison Blanche est entourée de plein de petites maisons noires. La ville est noire, Washington DC, c'est une ville noire, essentiellement à l'est de la ville, avec une forte proportion de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Washington DC est l'une des villes les plus pauvres des États-Unis, avec un taux de criminalité parmi les plus élevés, et d'ailleurs pas seulement dans les quartiers noirs. Et alors évidemment, on vous dit que oui, d'accord, un taux de criminalité élevé, mais peut-être que le taux le plus élevé, c'est à la Maison Blanche qu'on en trouve les responsables. C'est ce qu'affirment ceux qu'on rencontre dans les quartiers noirs de Washington, dans les quartiers où la violence sévit. C'est ce qu'on a fait hier avec le camarade Give. On est allé dans un de ces quartiers où être blanc est une rareté. Il n'y a aucun blanc qui s'y aventure, ou quasiment jamais. Et c'est une expérience assez spéciale toujours que d'exister uniquement par son aspect et par la couleur de sa peau. Ça dure pas longtemps, mais c'est une expérience qui fait penser à celle évidemment vécue par les autres depuis si longtemps. Dans ces quartiers où les gens souffrent beaucoup, beaucoup de violence, crimes, drogues, etc., on rencontre aussi des gens qui se battent, qui essayent de faire quelque chose, des associations courageuses, des mamans, des grands, des petits qui essayent de s'en sortir et de s'organiser. Et puis évidemment, on a dans ces quartiers un point de vue très précis sur le plan politique, c'est qu'on est démocrate. On vote démocrate bien évidemment à 90%. On sait que ce qu'on appelle les Américains africains, les Africains américains comme on veut, votent démocrate, sauf Melvin qu'on a rencontré hier. Lui qui va voter Bush, il nous a beaucoup surpris. On lui dit qu'est-ce que vous allez voter, il nous dit je vais voter Bush. Et pourquoi donc? Ah, parce que Melvin était dans les Marines lors de l'offensive de 91 dans la guerre du Golfe, et ça lui a laissé un bon souvenir, ce qui n'est pas le cas de ceux qui en reviennent, à en juger par la couverture aujourd'hui de Washington Post, avec une fois de plus le retour d'un cercueil, ce qui consterne évidemment la population. On continue notre voyage autour de Washington. On va partir en West Virginia, sans doute aujourd'hui ou demain. On vous racontera tout ça à notre retour. Aujourd'hui, nouvelle diffusion du deuxième volet de la façon dont on s'alcoolise et on alcoolise notre beau pays et notre belle jeunesse. Comment on s'y prend? Comment on instrumentalise le bon peuple pour le rendre alcoolo? C'est dans la base, j'y suis, c'est tout de suite après les messages que voici.
Entendre cet ancien représentant d'une société distributrice de boissons alcoolisées citer les recommandations de son employeur pour rendre les jeunes, entre autres, dépendants de l'alcool, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, est révoltant. Bande de criminels qui, pour engranger toujours plus de fric, n'hésitez pas à inciter vos collaborateurs, comme vous dites, hein, à distiller le poison. Mais qu'attend-on pour sanctionner ces gens-là? Notre champion de Bercy, que Deus Ex Machina, à qui rien ne résiste, est-il au courant de ces pratiques? Si ce n'est pas le cas, il faut lui confier le dossier à la radar, et à coup sûr, il n'y aura plus ou peu que de gentils limonadiers sur la plaque. Patrick Saint-Gratien. Merci.
À l'appel de plusieurs organisations, dont Palestine 33, l'Association des Palestiniens à Bordeaux, l'Union juive pour la paix, ATTAC, la Confédération paysanne, SUT, la Ligue communiste révolutionnaire et bien d'autres, nous vous invitons à une manifestation de soutien au peuple palestinien pour commémorer le massacre de Sabra et Shatila. Une rue Sabra et Shatila sera baptisée pour que 3000 civils ne tombent pas dans l'oubli. Place Gambetta à 14h30 à Bordeaux le samedi 18 septembre. C'était Samia.
C'est Jean-Gabriel de Saint-Vallier-de-Thiers dans les Alpes-Maritimes. Voilà, cette semaine dans la presse, deux chiffres ont attiré mon attention. Le premier concerne le célèbre trou de la Sécu. 11 milliards d'euros en 2003. Et là, il n'y a pas d'adjectif assez fort pour qualifier cet abîme, cet abysse, ce tonneau des Danaïdes. Le deuxième chiffre fait référence à la fraude fiscale. 50 milliards d'euros, toujours en 2003. Et là, à peine quelques commentaires amusés sur l'art de resquiller de certains contribuables. Mais aucun rapprochement entre ces deux chiffres. Eh bien, je pense que si l'État voulait se donner les moyens pour récupérer l'argent qui est dû à la nation et aux citoyens, peut-être que ça aiderait la Sécu, les chômeurs, les mal logés, les petits retraités, etc., etc. Mais non, ça serait trop simple. Sinon, nos polytechniciens, nos énarques, nos politiciens que le monde entier nous envie auraient déjà trouvé et appliqué cette solution. Enfin, on peut toujours rêver. Merci à toi Daniel et bon courage, salut.
Profession alcoolique. C'est Daniel Mermet avec les Rotaires. C'est là-bas si j'y suis et ça s'appelle comme ça. Profession alcoolique. Flight number 2, arriving from.
Et voilà Charlot. Et bonjour. Eh ben, tu en fais une drôle de tête. Tu es malade?
Ah, m'en parle pas, hein. Hier, j'étais avec un collègue. On a voulu aller boire un pastis. On nous a servi une purée que c'était presque du vitriol. Ça sentait les terres. Ça m'a donné mal au cœur et mal à la tête. Je n'ai rien pu manger. Ici, c'est drôle. Il y a des jours où j'en bois une douzaine et j'ai jamais été malade.
Ah, mais moi, si mes clients ne sont jamais malades, s'ils ont toujours un appétit d'enfer, c'est parce que je ne leur sers que le Ricard. Le pastis Ricard à base de graines et de plantes aromatiques distillées, fabriquées avec de vieux alcools rectifiés. Le Ricard, mon ami, c'est le vrai pastis de Marseille.
Bon, c'est pas très gai, hein, début d'émission. J'étais bien parti, on voulait vous faire quelque chose de gai, hein. C'est vendredi, le week-end, la route, la petite soirée, copains, bistrot, resto, disco, et puis voilà, c'est loupé, boum, 1,5 g, eh oui. 45 000 décès, dont 38 000 chez les hommes, chaque année, sont imputables à l'alcool. Les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les 15-24 ans. Le coût sanitaire et social des consommations excessives d'alcool s'élève à 17,5 milliards d'euros par an. Et c'est un chiffre à mettre évidemment en rapport avec le chiffre d'affaires annuel dans notre pays des boissons alcoolisées, 13 milliards d'euros, 17,5 milliards d'euros coûts sanitaires et 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Contribution fiscale, ce qui est pas mal non plus, évidemment, c'est un aspect non négligeable de ce domaine, 3,3 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Et un autre élément, emploi direct et indirect, 600 000. Voilà, on connaissait le geste qui sauve le viticulteur, et bien maintenant il va falloir boire si on veut lutter contre le chômage. Alors évidemment, le petit gars qui, ce soir, en rentrant de boîte avec ses copains, va se retrouver en pièces détachées avec des petits morceaux de cervelle dans les arbres, toutes ces choses-là, bof, oui, oh, ça passe, on le sait, ça rentre dans une oreille et ça sort par l'autre. Et puis voilà, c'est une vieille histoire, l'alcool c'est lié complètement avec la avec notre culture, on en a parlé hier. N'empêche qu'il y en a un qui s'est désolidarisé de tout ça, qui en a eu marre et qui a été forcé d'en avoir marre, il s'appelle Franck, profession alcoolique, d'où le titre de cette émission, dealer d'alcool, il se désigne comme ça lui-même. Pendant 11 ans, il a travaillé, c'est un petit gars des cités, qui a grimpé, qui est devenu commercial, et puis qui est rentré dans cette très grande multinationale alcoolière. Et il est devenu un cadre. Qu'est-ce que ça veut dire être un cadre commercial chez dans cette boîte? Eh ben, c'est la devise, c'est que pour faire boire, il faut boire. Et il a bu. C'est une formation quasiment guerrière. Il nous a raconté ça hier. Le bizutage, la discipline, l'esprit de commando. Mais tout ça, c'est bourré du matin au soir. Et puis un jour, eh ben, il a craqué. Il a arrêté et depuis, eh ben, Franck se bat contre tout ça. Alors, il est tout seul. C'est extraordinaire parce que j'ai parlé de 600 000 emplois directs et indirects liés à ce domaine de l'alcool. Je dis pas que c'est 600 000 alcooliques, mais enfin, il y a quand même assez peu de gens qui racontent comment ça se passe, comment on manipule, comment on fait boire nos frères humains, nous-mêmes. Ils nous racontaient hier les cibles, les cœurs de cibles, c'est-à-dire les jeunes, c'est-à-dire les femmes, c'est-à-dire les sportifs. Les femmes, ça marche pas très bien, mais les jeunes, ça marche très bien. On boit de plus en plus jeunes. Les sportifs, c'est le coup de la troisième mi-temps. Voilà ce que Franck nous a commencé à nous raconter hier et qu'il va commencer aujourd'hui. Je suis pas très juste en disant qu'il est le seul à raconter tout cela. Il y a également Jérôme qu'on va retrouver. Dealer d'alcool, c'est jusqu'à 18h sur France Inter, là-bas si j'y suis.
Mon prénom, c'est Jérôme. J'ai travaillé pour cette société de 1995 à 2001. C'était comme une armée, comme une secte. De toute façon, les cadres avaient ce discours-là. Hein. Quand on arrivait, ils nous disaient « Attention, hein, vous êtes rentré dans une boîte très très particulière. Vous êtes trié sur le volet, vous avez été recruté parmi énormément de gens, ce qui est tout à fait vrai. » Mais on avait une réputation dans l'Europe entière, parce qu'on était évidemment dans une grosse multinationale. On avait une grosse réputation, quoi. Franck, quand je suis arrivé, c'était un cador. Ce qu'on appelle un cador, c'était un mec très fort. Et moi, je l'ai rencontré, ça faisait à peine 15 jours que j'étais rentré dans la boîte. Et tout de suite, j'ai vu l'efficacité qu'il avait au boulot, parce que j'ai fait avec lui une grande partie de la banlieue parisienne ouest. Il voyait nécessairement le danger pour quelqu'un qui était fraîchement émoulu. D'une école de commerce qui arrivait, qui débarquait, il refusait qu'on consomme avec lui avant midi. Il aurait pu utiliser les stagiaires pour se faire conduire, et ça n'a jamais été le cas. Tous les gens qui rentraient dans la boîte, de toute façon, les meilleurs passaient entre ses mains, et tout le monde était unanime. C'était quelqu'un dans son boulot qui était assez fantastique, vraiment, réellement. Tous les directeurs et tous les cadres avaient la même consommation d'alcool que la nôtre. Et ils nous mettaient beaucoup de vent dans les voiles. Il y avait vraiment un esprit très 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 particulier. Et je pense qu'ils ont été aussi utilisés pour monter le réseau et monter le potentiel du réseau à un certain seuil. Et puis après, ils ont tous disparu et on nous a mis des charcutiers à la place, à l'américaine. Et l'esprit a changé du tout au tout. Fin 99, début 2000, hein, le discours a changé, il y a eu une dureté dans le ton terrible, il a fallu pédaler beaucoup plus qu'avant, on était suivis partout, ils avaient une technique avec les téléphones portables qui leur permettait de nous suivre à la trace, hein, absolument partout. En fait, ils ont ultra rationalisé notre boulot. Et ils nous ont vraiment essorés comme des serpillères, quoi. Vraiment, ça a été, non mais ça a vraiment été terrible. C'est l'ultralibéralisme triomphant, c'est-à-dire que vous êtes contrôlé depuis le matin. En fait, c'est vraiment le début d'un système qui nie l'individu totalement et qui cherche à rentabiliser les choses à leur maximum, et où peu importe si les gens tombent malades, hein, peu importe s'ils se plantent sur la route en bagnole, c'est Big Brother partout, et on pense que c'est pour demain, mais c'est pas pour demain, c'était hier, hein.
Un témoignage de l'intérieur de Jérôme avec sa guitare. Évidemment que l'ivresse est la plus vieille aventure de l'humanité. C'est lié à l'histoire, à l'ivresse, hein, sous tout un tas de formes différentes. Mais je pense qu'il n'y a pas une seule culture dans l'histoire de l'humanité qui n'ait pas trouvé, dégoté un moyen de s'envoyer en l'air par n'importe quel moyen, par des substances, mais pas toujours. Ça peut être par la danse, par la transe, l'ivresse, voilà, c'est une chose qui dont nous avons besoin, semble-t-il, pour durer. Là, ça prend l'aspect de, c'est le moyen, c'est l'alcool. Et bien sûr qu'il y a toujours eu des gens pour boire et toujours des gens pour faire boire les autres. Sauf que là, on est dans une période de turbo-capitalisme, il le dit Jérôme, hein, l'ultra-libéralisme, c'est-à-dire vraiment ce capitalisme dans son aspect le plus sauvage, le plus barbare, que plus rien n'arrête, puisqu'on arrive à former des gens de cette façon-là. C'est assez rare que des commerciaux parlent comme ça de l'intérieur. D'autres, beaucoup d'autres, petits soldats de cette forme d'ultra-libéralisme pourraient témoigner, seulement ils perdraient leur boulot, et il faut l'avoir perdu pour parler comme ils le font, comme va le faire dans un instant Franck, le dealer d'alcool, et comme le fait son collègue Jérôme, non sans un certain courage.
Cette société, comme les autres, au départ, elle vend l'alcool. Bon. Dans un deuxième temps, elle utilise toutes les règles de l'ultralibéralisme. C'est des actions de lobbying, c'est des pressions, c'est tout un tas de choses. C'est presque une prise de risque pour nous de parler aujourd'hui, je veux dire, d'une certaine manière. Et ça, c'est dramatique. Il y a des gens qui ont laissé leur peau parce qu'ils se sont foutus la gueule en l'air, parce qu'ils étaient tellement déprimés, ils étaient dans des déprimes tellement profondes, qu'ils y ont aussi. C'est comme tous les types qui sont à l'heure actuelle les poumons complètement pris parce qu'on les a fait travailler dans l'amiante pendant des années, en sachant que l'individu dans l'entreprise n'a plus d'importance. Moi, j'ai voulu anticiper et essayer de négocier un départ, hein, parce que je voyais bien que c'était sauté dans le vide, hein, que de continuer à travailler dans ce boulot-là. Ma vie était en danger. Il fallait le week-end se taper les discothèques le vendredi et le samedi. Avant les discothèques, il fallait se taper les bars du soir, tu sais, il fallait faire l'apéro partout, il fallait mettre tout le monde dans le move, et puis le dimanche matin, il fallait se réveiller pour s'occuper de l'apéro de l'équipe de rugby, le soir on était encore ailleurs le dimanche. C'était un suicide à petit feu, cette histoire. J'ai nécessairement une part de responsabilité là-dedans, parce que on a tous besoin de travailler, on a tous besoin de bouffer, de remplir la huche, et puis c'est pas facile de s'extraire de quelque chose comme ça. C'est complexe. Oui, j'étais pris dans cette espèce d'ambiguïté, et puis on payait beaucoup beaucoup de pots à tout le monde. Alors évidemment, on se fait beaucoup de faux amis, quoi. Puis le jour où vous avez plus l'étiquette, mais il y a plus personne autour.
Maintenant, j'affirme que les fabricants d'alcool sont des dealers, au même titre que les vendeurs de drogue. et que l'alcool est une drogue dure, au même titre que la cocaïne. Nous étions 600. 600 guerriers. On va appeler ça les guerriers. Notre mission, c'est accroître la consommation du produit auprès des jeunes.
Sans mettre un sou jamais chez le pharmacien, j'ai la combine pour me porter bien. Au lieu de drogue comme moi, buvez sans retard, le pastis en vogue, le succès des bars. Matin et soir, pastis Ricard, en boire un verre, vos régénères. Cela vous rend si bien portant, ça tu le cafard, oui, le pastis Ricard.
Pour votre appétit, pour votre santé, un Ricard, le vrai pastis de Marseille.
Ah oui, ça date pas d'hier, hein, la réclame pour nous faire picoler, ça date pas d'hier, hein. Je sais pas de quand date cette réclame, mais alors là, c'était la santé, le grand argument, c'était oui, ça et la chanson qu'on a entendue tout à fait au début des quatre barbus, c'était santé, sobriété. C'était une campagne à une époque qui essayait de dire que non, on n'avait pas besoin de boire tout ça pour trouver en bonne santé, au contraire. Donc ça a été l'un des aspects de la lutte contre l'alcool. Dans notre pays, une lutte qui finalement, bien sûr, qu'on boit trop, que les gosses boivent trop, que c'est des sommets, mais il faut quand même bien dire que nous buvons moins qu'il y a qu'à ces époques. Il y a une réduction légère, mais lente, disons, mais régulière de notre consommation globale d'alcool. C'est pas une raison pour arrêter et remonter notre score, mais c'est quelque chose qui doit être précisé. Alors, revenons à... C'était très beau le blues hein, du vendeur là de Jérôme. Revenons à son copain, donc Franck, le dealer d'alcool. Et là, on se dit, ben, comment ils font ? C'est des représentants, des VRP, donc ça veut dire la voiture, donc ça veut dire rouler. Comment fait-on pour rouler bourré, Franck ?
Franck, vous étiez noté comme un bon élément, hein, et entre autres, vous étiez noté comme ayant de bonnes relations avec, entre guillemets, les uniformes.
Oui, bien sûr.
Comment ça se passe sur la route ? Parce qu'en tant que commercial, vous êtes toujours sur la route.
Je faisais en moyenne entre 70 et 100 km par jour.
Jamais à jeun ?
Jamais à jeun. Jamais à jeun. Nous avons de tisser des liens étroits avec... certaines autorités. On offrait des bouteilles auprès de certaines personnes. Nous avions un fichier. Si on leur a fait un apéritif au préalable pour les remercier ou pour un départ à la retraite, ils nous laissent tranquillement rentrer chez nous.
Ils ferment les yeux.
Voilà.
Donc on fermait un petit peu les yeux sur les excès de vitesse.
Oui, surtout sur la conduite en alcoolémie, oui.
Donc de 90 à 2000, vous conduisez quotidiennement et toujours en état d'ivresse.
Tout le temps. Tout le temps, tout le temps.
En 10 ans, vous avez été verbalisé combien de fois ?
Zéro. La dernière fois, c'était simplement en 2000 où je me suis fait arrêter sur le bord de la route avec 1,40 g dans le sang. Bien sûr, l'entreprise a fait le nécessaire pour que j'aie simplement une amende et 8 mois de permis blanc. Chaque fois qu'on avait un retrait de permis pour alcoolémie, on savait à qui demander pour obtenir un permis blanc. Alors que maintenant, essayer d'obtenir un permis blanc. Mais à l'époque, c'était très facile.
Vraiment, vous voyez, à l'époque, vous ne voyez pas du tout le risque.
Mais non, puisque nous sommes même constamment sollicités par certaines personnes qui représentent donc la loi, les autorités. Et comme on boit avec eux, on s'aperçoit qu'on fait partie de leur bande. Donc on dit que c'est pour les autres, mais pas pour nous. Parce que s'il avait fallu arrêter de travailler lorsque les kilotests étaient rouges, à partir de midi, on pouvait arrêter de travailler. Là, je pouvais commencer à boire à partir de 8 h du matin. Le 90 à 2000, si je n'avais pas eu certaines bonnes relations, je n'aurais pas jamais pu faire mon travail correctement.
Et oui. Et tout ça sonne le vrai, mais c'est rare. Ce sont des témoignages, évidemment, rares pour des raisons évidentes. On a rencontré aussi Claude Gault, que vous connaissez, voyez souvent, intervient à la télé, notamment, il est docteur en médecine, il est président du collège scientifique de l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, et on l'a vu assez souvent au temps de la loi Evin. Vous vous souvenez, dans les années 90, on le voyait, 91, puisque la loi Evin date de 91, contre la publicité sur le tabac, et puis contre la publicité concernant l'alcool. La loi Evin a eu l'aventure qu'on sait concernant l'alcool, c'est-à-dire qu'elle a été peu à peu vidée de sa signification et devenue inopérante grâce à l'action forcenée du lobby des alcooliers. Claude Gau réagit aux confidences de Francky.
Je suis à peu près d'accord avec toutes ces affirmations. Dans ce pays, et ça a été très bien montré par Claudine Pérez-Diaz, qui avait très bien décrit ce système en étudiant des procédures et en regardant pourquoi elles n'aboutissaient pas. Et la proportion qui n'aboutissait pas était parfois la moitié de ces procédures d'infraction constatées. On voyait bien que dans un monde où finalement les policiers et les gendarmes n'ont pas tellement de monnaie d'échange, on vient de voir apparaître la possibilité de rémunérer des syndicateurs. C'est intéressant parce que on voit bien que ça accompagne une interdiction d'utiliser la contravention de sécurité routière comme une forme de cadeau de rémunération indirecte. Or, on sait bien que les renseignements généraux, les notables locaux, y compris les médecins, les maires, tout le monde, participaient à cette dévalorisation de la loi dans le domaine de la sécurité routière. Et c'était les arguments qui militaient d'une part pour la création de polices spécialisées beaucoup plus indépendantes que les polices ou les gendarmeries implantées localement, ça n'a pas été fait, mais cette circulaire qui dit « il ne doit pas y avoir d'indulgence, et il y aura des sanctions s'il y a indulgence », en gros s'il y a trafic d'influence, parce que là on entre dans la République bananière, est une circulaire à mes yeux très importante. On la demandait depuis des années, et le problème sera maintenant de savoir si elle sera complètement appliquée, en particulier si elle sera évaluée. Si on veut qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait une évaluation. On va prendre dans certaines unités des jours tirés au sort et on regarde ce qui a été constaté et ce qui a abouti. Et on exige que quand une procédure a été interrompue, il y ait l'argumentaire et la signature de celui qui a décidé de l'interrompre. Donc on voit qu'on est en train d'évoluer progressivement, et c'est une bonne chose, vers une société où tout de même le droit en ce qui concerne la sécurité routière n'est pas dévalorisé en permanence en faisant passer à la trappe des infractions. Donc c'est vrai, les gens qui ont ces métiers à risque, puisque typiquement ce promoteur de l'alcool à travers des tournées journalières très alcoolisées avait un métier à risque, et on connaît médicalement depuis très longtemps ces métiers à risque, et les pires, si je puis dire, en termes d'exposition au risque, c'est ceux où il y a à la fois cette consommation importante et une nécessité de se déplacer en voiture, puisque là l'incompatibilité est totale. Et puis c'est vrai, si le trafic d'influence disparaît, ben on va voir que la pression de la société sur le risque alcool va s'accentuer, et c'est une bonne chose, ça fait partie du contrôle social. Mais ça ne concerne pas seulement les commissariats de police, les unités de gendarmerie, mais moi dans mon club cycliste, un jour voyant dans une tombola apparaître un certain nombre de bouteilles d'un pastis connu, j'ai dit mais tout de même moi ça me gêne qu'on offre ça. Pourquoi est-ce qu'on a acheté ça? Mais on m'a dit, on l'a pas acheté. On a été voir le représentant local qui nous a donné ces bouteilles, et ça fait partie de cette infiltration des milieux. Là, un milieu sportif, qui n'était pas un milieu sportif de haut niveau, c'était des cyclistes du dimanche. Mais n'empêche que pour faire une réunion avec une tombola, ils avaient obtenu extrêmement facilement un don d'alcool.
Bonjour. La bière, les alcools de plus de 1 degré, plus de pub à la télé, l'amendement Barzac présenté aujourd'hui à l'Assemblée, une mini-guerre déclarée entre médecins partisans et publicitaires opposants. C'est aujourd'hui que le ministre de la Santé, Michel Barzac, dans le cadre d'un texte de loi sur diverses dispositions d'ordre social, demandera la suppression de toute publicité pour les boissons alcoolisées de plus de 1 degré à la radio et sur toutes les chaînes de télévision. C'est surtout la bière qui est directement visée. Après les nombreuses affaires d'accidents provoquées par l'alcool au volant, les médecins récemment entrés en campagne sont bien sûr satisfaits de cette initiative, mais il y a les opposants, les fabricants de boissons alcoolisées, les publicitaires ou les télévisions privées. Les brasseurs, eux, ont déjà fait un pas vers la conciliation en annonçant leur intention de renoncer au spot. Mais dans le monde de la pub, on n'est pas content du tout car le manque à gagner risque d'être très important. Écoutez le point de vue de Bosco Gavidanovic, patron de la régie publicitaire de TF1. Pour lui, c'est un très mauvais coup.
C'est une très mauvaise chose puisque le montant du chiffre d'affaires réalisé avec la bière a été prévu dans notre chiffre d'affaires annuel, dans notre budget. Cette suppression-là va supprimer à TF1 environ 30 millions de chiffres. 30 millions, c'est juste pour les deux mois, c'est-à-dire juin et juillet. Et grosso modo, la bière fait 5 à 6% du chiffre d'affaires. Ça me paraît pas tout à fait utile. C'est discriminatoire parce qu'on veut interdire à la télévision et à la radio et pas sur les autres médias. Je trouve c'est dommage. La France sera le seul pays européen occidental à supprimer la publicité sur les alcools de moins de 9 degrés à la télévision. En ce qui concerne les autres pays, notamment la Russie soviétique, où il n'y a pas de publicité pour les alcools, et c'est pourtant le pays le plus alcoolisé du monde.
Il est pas mal ce petit document hein, qui date de 1987. Le ministère de la Santé essaye de limiter l'alcoolisation des Françaises et des Français et des petits Français et des petites Françaises. Mais qui est-ce qui apporte son témoignage ou qui vient s'expliquer? C'est pas le ministre, c'est le publicitaire. C'est le publicitaire qui vient expliquer qu'on va perdre de l'argent. C'est des sommets extraordinaires. On voit ce que ça représente effectivement. Que c'est publicité pour les bières, et c'est lui qui vient pleurer et c'est lui qui vient dire que la France est un pays archaïque. On a toutes les argumentaires qu'on trouve toujours. C'est vraiment le publicitaire qui fait la loi, quoi, en somme. Et c'est quand même un petit signe comme ça, hein, qui en disent évidemment très long. Alors, il y a eu des essais de ce ministère, et puis il y a eu effectivement la fameuse loi Evin de 1991, dont je parlais à l'instant, et dont Franck, à son tour, nous parle.
En 91, la loi Evin interdit toute publicité sur l'alcool. Quelle est la réaction dans votre entreprise?
Mais il a fallu rebondir tout de suite, donc c'est pour ça qu'on a mis en place des animations de plus en plus poussées sur le terrain pour que la marque soit toujours présente. Et l'entreprise, la firme, a créé une association entreprise et prévention qui était là pour, soi-disant, faire de la prévention auprès des jeunes. Je tiens à signaler qu'en 10 ans de carrière, je n'ai jamais vu une seule fois l'entreprise et prévention lors de mes animations. Pour moi, lorsqu'on fait de la prévention, on doit faire de la prévention à toutes les animations. Cette couverture, c'est simplement eux pour se protéger par rapport à la loi Evin. Et pour dire, nous, on fait le nécessaire, on prévient les dangers de l'alcool. Mais sur 10 années, je n'ai jamais vu cette association venir me seconder lors d'une animation. Nous vendions 60 millions de bouteilles. Il y avait 74% de taxes sur une bouteille. Et ça représente en taxes 5 milliards de francs pour l'État. Que pour une marque. Alors imaginez pourquoi l'État ferme les yeux sur beaucoup de choses. C'est pas normal. C'est pour ça que j'accuse le gouvernement de laisser faire, parce que ça remplit les caisses. Avec les campagnes publicitées qu'on voit à la télé, où tu t'es vu quand t'as trop bu, etc. Alors ils dépensent des millions dans ces publicités-là, mais ils savent qu'il y a des milliards qui rentrent parce qu'on laisse faire.
Ce soir, soirée tequila.
La loi Evin a été proposée au ministre de la Santé de l'époque, Claude Evin, par 5 médecins. Je faisais partie du groupe qui avait fait un rapport de santé publique avec mais des gens qui avaient depuis longtemps compris que la prévention ne serait efficace que si on s'attaquait aux gros facteurs de risque. Dans notre société, il y en a trois majeurs, c'est le tabac, l'alcool et l'accident de la circulation. Donc, on disait que pour le tabac et l'alcool, on ne devait plus en assurer la promotion publicitaire. Interdit total pour le tabac, dont on voulait se débarrasser, et pour l'alcool, il n'y a pas d'idée de prohibition dans ce pays. Il y a l'idée de ne pas assurer la promotion n'importe comment d'un produit potentiellement dangereux. La loi Evin n'a pas interdit totalement la publicité pour l'alcool. Elle l'a limitée dans la forme et sur les supports. Donc c'était une interdiction sélective et qui n'était pas globale. Une fois la loi Evin votée, les alcooliers se sont aperçus qu'ils avaient raté leur action de lobbying. Et dans les années qui ont suivi, on peut dire qu'une grande partie de la loi Evin dans son volet alcool a été détruite. Alors qu'à l'opposé, la loi tabac a bien résisté pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas du tout une puissance du lobby du tabac en France équivalente à la puissance du lobby de l'alcool. Les intérêts économiques ne sont pas les mêmes. Et pour l'alcool, on a vu successivement, et d'ailleurs dès le vote de la loi, une série de petites ou de grosses modifications qui l'ont vidé de son sens, puisqu'elle était fondée sur l'idée qu'on ne devait pas assurer la promotion de l'alcool n'importe comment auprès des jeunes. Il est évident que Entreprise et Prévention a été créée pour montrer une bonne image d'un monde de la production d'alcool responsable qui savait aller discuter avec les parlementaires, avec les structures associatives, avec les enseignants pour promouvoir un monde idéal qu'on n'a jamais vu nulle part où il n'y aurait que des consommateurs moyens qui maîtrisent et où on pourrait avoir à la fois les avantages qui sont évidents de l'alcool sans en avoir les inconvénients. Quand on voit les comportements par ailleurs des alcooliers, là, on peut douter de la cohérence de leur langage. Il y avait celui d'Entreprise et Prévention et puis le discours sur le terrain qui était totalement différent. En ce qui concerne Entreprise et Prévention, c'est vrai que la structure, qui était une structure pour donner une bonne image de l'action des alcooliers dans la prévention de l'alcoolisme, n'est jamais intervenue sur le terrain. Et donc, c'est vrai de le dire, c'est pas au niveau des animations qu'Entreprise et Prévention agissaient. C'était beaucoup plus à usage média. Donc, c'est ça ce qu'on peut appeler le visage présentable des alcooliers à travers Entreprise et Prévention. Mais c'est vrai que sur le terrain, le comportement dans les animations de soirée était exactement à l'opposé d'un comportement de consommation maîtrisée tel que le définissait Entreprise et Prévention dans ses documents. Et très vite, il a été possible de refaire de la publicité par la radio. Et puis ensuite, surtout, il y a eu le rétablissement de la publicité par affichage. On a même rétabli la possibilité de faire de la publicité sur les stades. Et puis ensuite, possibilité de vendre des boissons alcooliques sur les stades, ce qui était fondamental pour bien commencer la troisième mi-temps, c'est-à-dire passer du sport, activité favorable à la santé, vers la troisième mi-temps, qui est l'activité de destruction du bénéfice, puisque c'est ensuite l'accident de la route, les violences, tout ce qu'on peut voir quand, après des matchs ou autour des matchs, il y a des consommations d'alcool, et qui peuvent se voir dès le stade du match, puisque quand on regarde les grandes catastrophes qui sont survenues dans des stades comme au Ezel ou en Angleterre, l'alcool était constamment associé à la violence.
De tous les stades, c'est le suprême fortifiant. Et dans les matchs, il redonne du cran. Très dynamique parmi les footballeurs. Ceux qu'ils consomment sont toujours les vainqueurs. Matin et soir, Patrice Ricard, en boire un verre, pour régénérer. Se labourant, si bien portant, ça t'il qu'à pas vivre le Patrice Ricard.
Pour votre appétit. Pour votre santé, un Ricard, le vrai pastis de Marseille.
L'action de lobbying des alcooliers, ça a été un discours qui a été relativement clair. Quand on regarde le débat parlementaire au moment de la loi Evin, tout ce qui était écrit dans les médias, en particulier les médias qui s'intéressaient à la publicité, à la promotion publicitaire, et également dans le monde des magazines qui vivaient en grande partie des publicités liées à l'alcool et au tabac, Le discours a été au nom de la liberté, finalement. La liberté de promouvoir des produits en vente libre, de faire jouer la concurrence en essayant de développer, de soutenir certaines parts de marché. Donc, ce discours-là, il était dans la bouche des parlementaires qui prenaient position contre la loi Evin au Sénat et à l'Assemblée. Et quand il y a eu cette alternance de la majorité quelques années après le vote de la loi Evin, on a vu extrêmement vite rétablir la publicité par affichage avec un argumentaire qui était extrêmement simple, qui était d'assurer la promotion, bien sûr, de nos vins, de nos boissons nationales, produits du terroir qui vont assurer la convivialité, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ce discours était relativement clair. Je trouve que le combat sur l'alcool, sa promotion, est un combat qui s'est fait au grand jour. Ça n'a pas été un combat souterrain.
Ça s'est peut-être quand même fait aussi parfois par des dons de campagne à certains députés, non ?
Bien sûr qu'il y a eu des dons financiers pour des campagnes politiques, mais le lobby de l'alcool n'avait pas besoin, pour acquérir la conviction des élus, de les acheter. Ces élus étaient convaincus qu'on devait pouvoir assurer la promotion du vin.
On prend conscience de la réalité lorsqu'on peut arrêter le système. Mais sinon, tant qu'on est dans le système de l'alcool, il n'y a pas de prise de conscience du tout. L'alcool est là aussi pour vous faire effacer peut-être une certaine conscience. C'est pour ça que les gens boivent aussi, pour oublier une certaine conscience qui leur pèse. Soit les problèmes de travail, soit les problèmes avec le conjoint ou la conjointe, etc. C'est pour ça que les gens boivent. Les gens qui sont bien dans leur tête ne boivent pas. C'est une gomme, mais ça, c'est une gomme. C'est-à-dire que les problèmes sont toujours là. Mais pendant un certain temps, eh ben, on les oublie. On les oublie, on refait le monde.
C'est le tableau magique ?
C'est le tableau magique, oui. C'est vrai que c'est le tableau magique. Pourquoi les gens boivent ? C'est pour oublier. C'est vrai que plus il y aura un mal-être au niveau de la génération actuelle, plus les jeunes continueront à boire de l'alcool. C'est vrai. Donc les fabricants d'alcool ne sont pas fous. Ils savent très bien qu'il y a encore un fort potentiel derrière. Donc ils vont continuer. C'est leur mission principale.
Bien sûr que les marchands d'alcool vont continuer à vendre de l'alcool. C'est leur métier. Ils le produisent parce qu'il y a des acheteurs. Et le problème, c'est que cette offre correspond à une demande. Et cette demande, elle est très bien décrite comme une demande excessive, mais cette demande excessive, ce sera seulement une partie d'une population. Cette notion d'un mal-être, de difficultés relationnelles, affectives, dans le travail, en gros de difficultés existentielles qui fait qu'à un moment, on trouve cette fausse solution d'échapper aux difficultés du moment avec de l'alcool et avec de plus en plus d'alcool, c'est ce que nous racontent tous les gens qui ont en charge des personnes dépendantes, qui ont un problème d'alcool. Ce parcours qui finalement peut les mener à la destruction complète, physique, prématurée, parfois psychologique, relationnelle, avec le chômage, le RMI, la désinsertion sociale, souvent à ce moment-là avec, c'est habituel, le conjoint qui est parti, la maison qui a été vendue ou perdue, et le drame dans tous les aspects de la vie professionnelle et affective. La fraction de la population qui est dans cette situation, c'est environ 1 million de personnes en France, de buveurs excessifs qui vont éventuellement passer dans le désastre, c'est probablement 4 à 6 millions. Et puis, il y a les dizaines de millions qui consomment un verre de temps en temps, 2 verres, 3 verres, et qui, eux, ne vont pas du tout entrer dans ce cycle d'aggravation de la consommation, les menant à la déroute physique et psychique. Donc, une société a ce devoir de maintenir une pression sur la consommation d'alcool pour essayer qu'une fraction importante de la population parte vers le malheur humain, la destruction. Mais il faut bien avoir à l'esprit qu'on n'a jamais vu une seule société où il n'y ait que des consommateurs moyens. Donc, l'idée de mettre consommer avec modération en bas des affiches et de penser que ça va limiter la consommation des viandes est une erreur. La seule façon de limiter la consommation à problème, c'est de bien, dès l'enfance, expliquer que c'est un produit potentiellement dangereux et donc on ne peut pas satisfaire l'intérêt de santé publique, diminuer les maladies liées à l'alcool et satisfaire les alcooliers. Il y aura toujours une contradiction entre les intérêts des uns et des autres. Car il ne faut surtout pas oublier que près de la moitié de la consommation d'alcool dans ce pays est consommée par des gens qui en consomment trop. Les alcooliers, si on supprimait d'un seul coup les buveurs excessifs, verraient la consommation par habitant tomber à 5 litres d'alcool pur. Leur revenu serait divisé par deux.
Donc l'intérêt des producteurs d'alcool, c'est de continuer à faire boire davantage ceux qui boivent déjà trop.
Bien sûr que l'intérêt objectif des producteurs d'alcool, c'est d'avoir un groupe important de buveurs excessifs, d'alcooliques, qui va représenter la moitié de leur production, et puis une autre moitié de buveurs modérés. Dans ce groupe se recruteront les buveurs excessifs. Il faut bien voir, dans une société, on passe facilement d'un groupe dans l'autre. Si on a un groupe de consommateurs moyens très important, quand il va être en difficulté, ce groupe de consommateurs moyens va passer dans le groupe de consommateurs à problème. Mais le groupe de consommateurs à problème est très important pour l'industrie de l'alcool, c'est une évidence.
C'était la suite de Profession Alcoolique, un reportage de Claire Auter. Merci à Franck, Jérôme, Claude Gault et au patron de Café Resté Anonyme. À lire Risquer sa peau de Claude Gault aux éditions Bayard. Plus d'informations à votre disposition sur le site de Là-bas si j'y suis en allant sur franceinter.com.